on jase.
Oh oui, on jase sur l'heure du midi à Boulevard 102, 1, midi 39. On va avoir Étienne-Alexandre Beauregard avec nous dans quelques minutes. Juste vous dire que vous êtes complètement fous. Mathias, on a une excellente suggestion de Christian par texto. Je vous rappelle le numéro, 418-971-1021. Apparemment que ça va être Gilles Vaillancourt, l'ancien maire de Laval, le propriétaire de Liquidation Extrême 2.0. On va s'assurer qu'il n'y a pas de corruption.
On s'entoure bien. On s'entoure bien.
C'est ça, on va s'assurer qu'il n'y a pas de corruption là-dedans. Donc,
tout un duo avec lui puis Éric Barrette.
Je trouve que c'est une bonne idée. Si vous avez d'autres bonnes idées comme ça, n'hésitez pas à nous les soumettre. Vous le savez, Boulevard 101 est associé à plusieurs causes et une qui nous tient à cœur, c'est l'Alzheimer. Et la Société d'Alzheimer de Québec va tenir sa marche pour l'Alzheimer. IG Gestion Patrimoine le dimanche 31 mai prochain dès 9h30. L'événement va avoir lieu à la Maison O'Neill. C'est une belle occasion de se rassembler pour soutenir les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs. Vous pouvez choisir la marche de 2,5 km, la course de 4 km ou voire même la course de 400 m pour les enfants. Ça, c'est tellement cute quand on voit des enfants de 2-3 ans courir un petit 400
mètres. C'est mignon.
Oh, que c'est beau! Il y aura aussi des jeux gonflables, barbecue, maquillage pour enfants, mascotte sur place et plus encore. Notre escouade Boulevard avec notre animateur Nathan Meilleur va être là pour encourager les marcheurs. Les dons amassés sont essentiels afin de soutenir, former et informer toute personne concerné par la maladie de l'Alzheimer et offrir du répit aux proches aidants. Moi, j'ai mon père qui a aidé sa mère pendant au moins 8-9 ans, qui était aux prises avec la maladie de l'Alzheimer. Il était placé là, à l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur, mais quand même, tu sais, ça prend du soutien de la famille. Puis je vais vous dire une affaire, à un moment donné, mon père il a eu besoin de soutien individuel.
Ben, c'est sûr,
aussi.
C'est tout un défi. Il faut être courageux pour le faire aussi.
Oui, si vous êtes proche aidant, n'hésitez pas à prendre le soutien parce que t'sais, mon père, t'sais, un vieux bonhomme de 73 ans maintenant, aujourd'hui, là, lui, il disait pas qu'il avait mal en dedans. Il gardait ça pour lui. Puis à un moment donné, ben, c'est son fils qui a réussi à le faire pleurer. Ben,
c'est
il dit,
assez,
je crois que tu aurais besoin d'aide.
Ça éclate à un moment donné quand on renferme trop ça en dedans.
Oui, exactement. Puis ça me permet justement de sensibiliser. Un 866 appel, surtout avec la nouvelle qu'on a eue hier du décès de Claude Lemieux. Malheureusement, c'est confirmé. C'est un décès par suicide. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez quoi que ce soit, un 866 appel, vous le savez, je vous en parle souvent en ondes. J'ai eu cette période d'idées noires là en 2019. Je m'en ai sorti en demandant de l'aide. Puis aujourd'hui, je suis animateur de radio. J'aurais jamais pensé faire de la radio dans ma vie.
Puis on est content de t'avoir, Jeff.
Ben, c'est ça. Fait que vous voyez comment la vie peut prendre un rebond inattendu positif. Alors, allez-y, demandez de l'aide. Si vous avez besoin de demander de l'aide pour vous inscrire ou faire un don, visitez le alzheimer.ca. Étienne-Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus et ancien rédacteur des discours de François Legault, est avec nous. On va faire une petite tournée de cette semaine politique très mouvementée parce que, Étienne-Alexandre, tu l'as déjà vécu, les études de crédit, là, et que les oppositions se préparent pour le moindre détail.
Ben oui, c'est clair, c'est clair. Puis c'est comme un moment qui est rêvé pour une opposition parce que tu as du temps de glace, tu as le ministre qui est pris devant toi.
Ouais.
Tu peux le griller pendant assez longtemps.
Pendant des heures
premier
et
ministre,
des heures.
Ça dure un peu moins longtemps que les autres parce qu'on comprend qu'il y a des occupations et tout, mais il y en a des ministres, ça dure sur plusieurs jours. Puis dans les cabinets, là, c'est toujours une période où on dit « Ouf, là, qu'est-ce qu'ils vont nous poser? » Puis là, on le voit, là, quand on l'écoute à la télé, on arrive avec nos cartables par-dessus cartables par-dessus cartables pour être sûr de ne pas en échapper une, mais ça arrive qu'on en échappe des fois, comme
ouais.
On l'a vu cette semaine.
Ben, c'est ça. Parlant de griller, la première ministre Christine Fréchette s'est fait cuisiner d'aplomb par André Fortin. Si vous mettez les écouteurs, on va te faire entendre l'extrait.
C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui?
La dette nette aujourd'hui.
Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre?
Ben, je voudrais vous donner le bon chiffre.
Environ. Je vous donne du jeu, là. Il n'y a pas de...
Comment? 36% PIB.
En fait, non, je veux la dette nette, en chiffres, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi?
En dollars, ça équivaut à quoi?
J'en conclue, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec.
Je vous reviens.
Ben, ça me semble assez clair, Monsieur le Président. Mais c'est correct, je vais vous le dire, c'est 259 milliards.
La question qui tue, Étienne-Alexandre, toi qui as été dans l'entourage du premier ministre François Legault, est-ce que Christine Fréchette aurait dû savoir oui ou non la dette du Québec?
Non, mais c'est clair à ça que la réponse, c'est oui, là.
C'est oui.
Tu sais, parce que c'est pas comme si quelqu'un arrive et qui demande hey, « c'était quoi le taux de chômage au Saguenay-Lac-Saint-Jean le 3 janvier entre 22h puis minuit, là? »
Ouais, j'avoue que ça, c'est un peu trop précis.
Parce que, tu sais, des fois, il y a des chiffres qu'on s'attend à ce que les gens sachent. Puis la dette du Québec, tout le monde qui savent ça. C'est, en fait, c'est toujours traître, ces exercices-là. C'est comme quand M. Legault, dans le premier mandat, je ne sais pas si vous en rappelez, Manon Massé, il avait demandé c'est quoi le prix moyen d'un loyer à Montréal.
Oui.
Puis il avait répondu à quelque chose un petit peu en dessous. Puis là, QS avait fait son pain et son beurre avec ça pendant une couple de semaines. Puis c'est de bonne guerre, d'une certaine manière. Mm-hmm. Mais je pense que, dans le cas de Mme Fréchette, une des raisons pour lesquelles on en parle encore, rendu le vendredi, c'est que, tu sais, ça marque sa course à la chefferie, elle l'a faite en disant « Moi, je suis studieuse, je connais l'économie, etc. » D'aucuns diraient que si tu es studieux sur l'économie, la dette du Québec, c'est un chiffre de base.
T'as ça, exactement.
C'est comme un peu... Ça cadre mal avec le casting d'avoir quelque chose comme ça. Puis les oppositions sont juste trop contentes quand ils sont capables de prendre des
Puis si tu es la responsable ou c'est davantage son équipe derrière qui l'a pas nécessairement préparé suffisamment?
Bien, c'est difficile à savoir. C'est sûr qu'effectivement... puis je pense qu'on le voyait aussi dans le Salon Rouge à ces moments-là. Les gens qui sont autour, c'est pas des députés. Souvent, il y avait la directrice de cabinet à côté. Il y a le secrétaire général du gouvernement qui est comme le sous-ministre de la première ministre. Il y a les gens du cabinet aussi. Mais c'est sûr qu'en général, c'est quand même un chiffre qui est relativement de base. Fait que c'est sûr qu'on aurait pu s'attendre à, là. Mais c'est comme... Est-ce que faut pas en faire plus que ce que ça veut dire non plus?
Ouais.
C'est juste que c'est un moment qui... Puis c'est dommage pour elle, parce que dans la semaine précédente, on avait eu des sondages qui étaient positifs.
Elle était sur un bel air d'aller.
Exactement. Là, on voyait les chroniques qui commençaient à sortir en disant « Est-ce qu'il y a un effet Fréchette? » etc.
En effet.
Il y a eu le congrès de la CAQ le samedi à Lévis, où il y a encore une fois un discours « On rassemble les troupes » et tout. Mm-hmm.
Avec son chandail de la victoire.
Exactement.
Les députés et les ministres avec leur chandail du Canadien.
Ben oui.
Bon, Éric Girard qui a mis son chandail des Saguenayens parce que c'est le ministre des Kings. Et là, ça, c'est correct.
C'est ça. Puis l'annonce de la levée de la TVQ sur les bord-tendres puis les mois salés. Ça, je pense que c'est un petit peu le début où ça a commencé.
Oui, ben c'est ça que j'allais dire. T'sais, toi, tu étais dans l'équipe de François Legault. T'sais, François Legault s'est beaucoup fait remettre sur le nez ses fameux chèques électoralistes. Là, j'ai l'impression qu'il était capable de faire la coupure avec l'air Legault jusqu'à cette annonce-là où on a dit « c'est du pareil au même ». Je me trompe-tu?
Oui, bien, écoute, c'est sûr, c'est difficile de voir quelle marque tu vas imprimer. Pis tout. Mm-hmm. Je pense qu'effectivement, au moins au niveau du ton et de la manière d'être, on est très différent de où François Legault allait.
Ça, c'est clair.
Mais tu vois, moi, j'ai toujours eu une relation un peu ambivalente avec cette question-là des chèques, parce que beaucoup de gens, évidemment, dans les médias, etc., aimaient le reprocher au premier ministre. Mais reste que 500$, ça faisait quand même une différence pour du monde.
Mais
moi,
t'as raison.
Me souviens, on l'avait sondé, on a demandé aux gens « Êtes-vous favorable à ça? » 60% des gens disaient oui.
Ben moi, honnêtement, là, moment-là, je venais de me séparer, je venais de m'acheter un nouveau jumelé. J'ai pas craché. C'est 500$ qui est arrivé par la poste.
Ben c'est ça. Puis moi, je pense que là où ça a plus fait mal, c'est le montant. C'est que quand tu fais une annonce puis que tu mets dans ton communiqué de presse, ça va être 96 sous par semaine pour une famille de 4.
Ça, c'est vrai.
Ben, tu sais, comme juste le fait que tu t'en vantes. Je sais pas, j'aurais peut-être levé le flag à ce niveau-là, parce que après les gens, ils voient ça puis ils disent, c'est sérieux? Parce que après Éric Duhaime, il y avait beau jeu de dire, ah ouais, ben vous savez quoi, la taxe carbone, c'est 1000$ par année à la pompe pour une famille. Fait que là, on a une grosse différence.
En effet.
Fait que souvent, je pense que le montant, il joue aussi, parce que c'est difficile de surjouer en grande pompe quelque chose qui est... Là, c'est anecdotique.
Je me permets de faire une parenthèse, parce que tu parlais d'Éric Duhaime, ma tante Fréchette. Toi qui as déjà écrit des discours, t'aurais barré ma tante, là, j'imagine.
Mais, tu sais, moi, c'est sûr que j'ai entendu ça. J'ai fait comme,
c'est ça, comme moi, je vais t'envoyer, voilà.
Ben, l'affaire aussi, puis ça, honnêtement, il faut quand même le dire, là, si on veut être honnête. Moi, la quantité de fois, quand je travaillais pour le PM, le go, qu'on le traitait de mon oncle, moi, ça finissait par m'énerver, mais il n'y a jamais personne qui se faisait reprendre pour ça. Hein?
Ouais.
C'était comme, ça, c'était admis.
En effet.
Mais là, la variante féminine ne semble pas admise, puis tout. Bon, est-ce que c'était le call du siècle, comme on dirait, sans doute pas.
Non.
Après, moi, je vais dire quand même que quand j'ai vu les journaux sur le lancement de campagne de M. Duhaime dans Bellechasse, puis que c'était à peu près la seule chose qui ressortait, j'étais comme, êtes-vous sérieux?
Ouais, non, en effet.
Regardez un peu qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il proposait, pourquoi il allait dans ce comté-là. Tu sais, des fois, il y a comme... Puis surtout à l'endroit d'Éric Duhaime, qui n'est pas toujours le préféré de notre classe médiatique.
T'as raison.
Des fois, tu vois que si c'est juste ça que tu veux pointer sur le bobo, c'est comme,
Mais c'est aussi que c'est ça qui fait réagir.
C'est vrai.
Puis on se fait prendre à ce jeu-là, nous autres aussi. Hier, on en a parlé, on en parle encore aujourd'hui. C'est ça qui va faire réagir le monde. Une citation d'Éric Duhaime qui dit « Oh, Bellechasse, c'est une belle région. » ça accroche moins d'œil que ma tante Fréchette d'Éric Duhaime, Station Direct.
T'as raison. Mais tu vois, moi, je l'ai écouté le discours au complet par curiosité. Tu sais, des fois, quand on. L'arbre qui cache la forêt, là, je vais l'écouter. Puis il y avait un passage super intéressant sur les régions de dire. Puis ça, moi, je trouve que c'est intéressant. Tu sais, dans l'argumentaire, disons, critique du gouvernement qu'on connaît de la mouvance un peu plus à droite, libérale, etc., le côté région, il n'est pas à négliger. Juste dans l'absolu, c'est vrai que si tu restes à Bellechasse, tu te sens moins représenté peut-être par les décisions qui se prennent au complexe G que même si tu restes à Montréal, parce que la démographie est différente, les réalités de ceux qui vont souvent travailler pour le gouvernement vont être plus urbaines et tout. Fait que je pense que, en tout cas, moi, je pense que Duhaime, il a bien fait de se présenter dans une circonscription comme Bellechasse, une circonscription qui était bonne pour le Parti conservateur du Québec. Là, ils ont passé de 3 à 35 en 2018-2022. Ouais. Je pense que pour le message qu'il donne, qui veut être très axé sur les régions, sur les besoins des agriculteurs, des gens qui utilisent un véhicule, puis tout. Pis c'est vrai, tu sais, dans le sens que moi, je comprends pourquoi les gens qui sont à Bellechasse sont un peu plus sceptiques du gouvernement que moi, par exemple, qui a longtemps resté dans Sillery puis qui travaillait justement à l'édite pour le gouvernement. C'est sûr que la vision, elle va être différente. Moi, je pense que c'est un choix qui est intelligent de la part du PCQ de cibler les régions puis de dire qui est-ce qui partage un peu notre désillusion envers le gouvernement puis aussi envers le mur à mur parfois qu'on fait à Québec, les gens des régions. Fait que je pense que sur le fond, là, de choisir cette région-là pour se présenter, ça laisse aussi des circonscriptions en Beauce. On sait que des fois, on veut avoir un beau soin en Beauce et tout.
Oui.
Il ne s'embarque pas dans ce panier de crabes-là. Il prend une circonscription qui est quand même proche de Québec, mais qui va être sensible à ce discours-là. Je pense que c'était quand même un bon choix de sa part.
Parlant de visions différentes, Mark Carney, Stephen Guilbeault, c'était des visions qui n'étaient plus réconciliables. Moi, ce que je retiens de Stephen Guilbeault, par exemple, c'est que c'est un gars avec beaucoup de classe. Tu sais, qui a tenté de faire changer les choses à l'intérieur sans jamais faire trop de bruit à l'extérieur. Puis qui se retire aussi de la bonne façon. Je trouve que c'est rare qu'on voit ça en politique. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait une belle grandeur d'homme de ce côté-là de Stephen Guilbeault.
C'est vrai que de partir comme ça, quand même, sur une question de principe,
on
le salue d'avoir suivi ses valeurs plutôt que de se perjurer.
Moi, je vais toujours saluer les politiciens, même si je ne suis pas le plus environnementaliste du monde. Je vais toujours saluer les gens qui travaillent pour leurs valeurs.
Exactement.
C'est ce qu'a fait Stephen
Guilbeault. C'est ça, il n'y a personne qui va pouvoir dire qu'en partant de là, c'était un move opportuniste ou quelque
en
chose comme ça.
Ça.
Puis c'est drôle parce que moi, je pensais à ça dernièrement. T'sais, on voit le gouvernement Carney qui caracole en haut des sondages, notamment au Québec. Puis je me demandais, c'est quoi l'affaire qui va le casser? T'sais? Il va-tu avoir son troisième lien, son sac-clic, son affaire?
Ouais, c'est vrai, ça!
Ça va prendre une autre direction. Puis c'est drôle, moi, Monsieur Carney, on s'entend que depuis qu'il est arrivé en politique, il y a vraiment un peu ce côté-là de moi, je suis au-dessus de la politique. Mes interlocuteurs, c'est Donald Trump, c'est l'Union européenne.
C'est Emmanuel Macron.
Voilà. C'est pas beaucoup les Canadiens.
En effet.
C'est pas beaucoup Pierre Poilievre, qui d'ailleurs a vraiment de la misère à avoir de l'oxygène politique ces temps-ci. Puis là, c'est comme si la politique le rattrape. Tu sais, de dire, tu penses que tu peux être en haut de la mêlée pour toujours jusqu'au moment où il y a quelque chose qui te pète dans la face. Puis est-ce que c'est son aile gauche qui va le déserter? La question est ouverte.
Ben oui, parce que là, il y a quoi, 14, 15 députés qui sont justement du côté de Stephen Guilbeault, à savoir que là, ils disent, écoute, je me reconnais plus. Moi, dans ce parti libéral-là, je suis dans le parti conservateur. Donc, il y a une grogne en interne. Là.
Exactement. Des députés qui, si je ne m'abuse, n'ont pas dit leur nom encore. Fait que
non,
ça
c'est
très
ça. C'est pour ça, exactement.
Puis bon, c'est ça. Mais on va voir pour vrai qu'est-ce qui va arriver. Puis si c'est ça qui arrive, effectivement, ça va donner plus de chance aux conservateurs parce que eux, tant que le NPD n'existe plus puis que tous ces votes-là sont aux libéraux, ils pédalent dans le vide, tu sais. Mm-hmm. Fait que s'ils veulent être capables d'avoir de l'air, d'ailleurs, c'est un peu la tragédie de M. Poilievre, c'est qu'il y a eu le plus haut score de l'histoire du parti à la dernière élection, tu sais, 40% pratiquement. Dans un monde normal où le NPD a un certain nombre de votes puis que le PLC avait fait une bonne performance, qui aurait probablement été au gouvernement.
C'est clair.
C'est drôle, quand on est à sa place en ce moment, tu te dis en fait, je peux juste jouer l'horloge. Je peux juste espérer que les libéraux, ils se mangent entre eux, qu'ils se divisent, que le NPD remonte. Puis à ce moment-là, il faut que je garde exactement les mêmes électeurs qui étaient là en 2025. Puis là, tout d'un coup, je vais avoir tant de comptes de plus que j'ai eu avant. Puis là, oups, je vais passer. T'sais.
En effet, l'horloge a joué contre lui parce que là, il y a eu des gens qui ont quitté pour aller aux libéraux. Mais là, ça se pourrait que ça revienne, cette fameuse horloge-là. Je veux juste prendre un petit deux minutes avec toi. J'aime beaucoup parler de la question identitaire avec toi, Étienne Alexandre. Et là, le rapport de Oui Québec, la souveraineté, on n'est pas assez inclusif. Moi, je trouve que ça fait rapport commandé. Là. Le PQ, moi, quand il parle à l'heure actuelle, au niveau identitaire, je me reconnais beaucoup là, en tant que Québécois de 46 ans.
Absolument. Puis c'est drôle parce que ce débat-là, c'est l'impression que c'est le jour de la marmotte. Tu sais, moi, là, je fais de la politique depuis 2016. J'ai 25 ans, ça t'en dit que ça fait longtemps que je suis là-dedans.
Écoute, moi, je me rappelle de la crise des accommodements raisonnables.
Exactement, exactement. Puis moi, je me souviens, quand je suis rentré en 2016, écoute, il fut un temps où j'étais au Parti québécois, brièvement, au Comité national des jeunes. Puis c'était les mêmes débats. C'était les mêmes débats.
C'est ça. Dire,
est-ce que la Charte des valeurs, c'était une bonne idée? Puis là, tu avais toute la bande des inclusifs habituels qui disaient, oh non, c'était méchant, on s'est mis à dos tellement de progressistes, etc. Mais l'affaire, c'est que, je sais pas, moi, ces gens-là, ils sont pas capables de lire un sondage, mais la Charte des valeurs, c'est le truc le plus populaire que le PQ a fait dans les 25 dernières années.
Puis l'affaire, c'est que QS est à 8% dans les sondages.
Exactement. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont mis un petit peu en pause le dossier identitaire parce qu'ils avaient peur d'aller là-dessus. Puis là, la CAQ est allée 100% en disant, nous, ça va être la loi 21.
Puis la CAQ a scoré avec
gagné.
Ça, là.
Ils ont gagné. Oui. Puis moi, je pense que si le PQ était capable de devancer la CAQ dans les dernières années, c'est pas accidentel le virage identitaire que M. Plamondon a fait.
C'est
il y a un lien direct avec ça. Parce que les électeurs souverainistes, les électeurs nationalistes, ils ont les mêmes affects. Je veux dire, c'est la défense de l'identité québécoise, c'est la question des valeurs, la question de la langue, tout ça. Puis ils veulent pas quelqu'un qui prend des demi-mesures là-dessus ou qui a peur d'en parler.
Mm-hmm.
Fait qu'à ce moment-là, moi, je pense que le virage de M. Plamondon sur cette question-là a été 100% bénéfique pour le PQ, puis à bien des égards, c'est la source de leur succès. Parce que, veux pas, tu regardes, j'ai posté ça sur Twitter pour essayer de remettre les chakras à la bonne place à certains. Tu sais, les gens là, qui sont inquiets pour le déclin de la langue française au Québec, le dernier sondage que j'ai vu, c'était quelque chose comme 74,5%.
En effet, je fais partie de ceux-là.
Ben oui, moi aussi. Puis chez les francophones, on est en haut du 82. T'sais, c'est très élevé.
Ouais.
Tu regardes, ceux qui avaient un problème avec les fameuses prières de rue à Montréal, 61%. Ceux qui appuient la loi 21 aussi ont autour de 50-60%. Puis ceux qui appuient la souveraineté en ce moment, c'est 32. Tu sais, moi, je ne veux pas donner de leçon à personne, là. Mais tu veux regarder à qui tu parles, est-ce que de juste te concentrer sur 32 ou d'essayer d'élargir aux 75, c'est payant?
Ben, en effet, gars, je vais donner un exemple personnel. Je l'ai dit sur les ondes. Moi, mon prochain vote, ça va être vraiment sur la question identitaire. Je crains pour notre langue française. Je crains pour notre laïcité. Ça va être vraiment là-dessus. Et puis, j'ai jamais voté PQ de ma vie. La première fois que j'ai voté, j'avais 19 ans. Je pense voter pour le PQ.
Ouais.
Pas nécessairement parce qu'à l'heure actuelle, la souveraineté me fait triper puis que je veux que le Québec devienne un pays, mais juste parce que quand le PQ parle identité, je me reconnais. Puis après ça, je me disais, hey, s'il y a un référendum, on le gérera rendu là. Puis ça sera au PQ à me convaincre que c'est la meilleure solution. That's it. Ils auront tout le temps voulu pour me convaincre.
Ben
mais je pense vraiment voter PQ. Fait que c'est pour ça, quand tu dis entre le 32 et le 75, ben moi, je suis là-dedans. Là.
Ben c'est clair.
Je suis vraiment là-dedans. Fait que je pense que le PQ, bien plus à gagner de dire on continue dans notre vision identitaire que de dire ah ouais, on va essayer de faire des accommodements raisonnables pour reprendre ce qui a déjà existé. Ils vont perdre à faire ça.
Ben oui. Mais tu sais, encore une fois, c'est le jour de la marmotte. Je m'attends de moi-même à parler de ça. Mais c'est toujours les mêmes qui travaillent dans les mêmes médias, qui ont un problème avec le discours identitaire.
En effet.
Puis qui font passer leurs préférences personnelles pour les préférences des Québécois. Mais ceux qui sont là, les pires opposants de la loi 21, qui pensent qu'il faudrait, je sais pas, doubler les seuils d'immigration, comme le Conseil du patronat nous le dirait, puis qui disent qu'il n'y a absolument aucun problème avec les valeurs ou la langue en ce moment, c'est une peau de chagrin dans le vrai électorat.
C'est ça,
là. Surtout chez les francophones, est-ce que c'est 10 ou 15 % du monde?
Ben oui.
Des fois, je me le demande.
Ben, t'as raison, que le PQ continue à parler aux francophones, c'est là qu'ils vont aller chercher leur majorité.
Absolument, absolument. Fait que, tu sais, c'est juste de dire à quel. Moi, ça me dérange pas si vous me dites, j'ai un problème de principe avec ça pour les raisons X, Y, Z. Je pense qu'il y a un enjeu avec, quand sais-je, les droits et libertés, l'inclusion. Ça, moi, je suis prêt à l'entendre. Je suis prêt à discuter de ça. Mais si vous dites, c'est comme ça qu'ils vont perdre leurs élections, je m'excuse, c'est juste pas vrai.
En effet,
que c'est pas ça que les Québécois, ils veulent. Et puis c'est un peu le problème du Parti libéral en ce moment. Ils ont commencé à monter un petit peu chez les francophones. Puis là, oups, ils sont emmêlés les pinceaux
sur la langue. Dès qu'on a parlé de langue française.
Exact. Oups, là, ils étaient rendus à 10-15.
Ben oui, ils étaient rendus à 23% dans le vote francophone. Puis au dernier sondage, il était à 15, me semble.
Mais c'est ça, puis ils ont planté encore. Parce que leur produit, les gens ne veulent pas l'acheter.
Ben oui, puis là, ils vont devenir un parti libéral encore régional, juste à Montréal, dans quelques comtés. Là, c'est ce qui va arriver. Et on termine. Récession technique à l'heure actuelle. Tu conseilles la première ministre, tu conseilles les chefs, là, parce qu'on s'en va en campagne électorale. Tu leur dis quoi? Ça change-tu le plan de match ou on continue comme ça? Parce que de toute façon, on parlait déjà du coût de la vie.
Ben, je pense que ça va remettre encore plus l'accent, effectivement, sur le coût de la vie. Mais tu sais, je pense qu'on l'a vu cette semaine avec toute la question là, des bartendes détaxés. Celui qui va vouloir récupérer ça, ça va prendre un coup de barre. Il va falloir, comme on dirait en bon français, donner un coup de pied dans le canis. Puis je pense que juste d'arriver avec un petit truc ciblé sur le côté, tu sais, c'est comme un peu M. Carney, il essaie le même coup avec son allocation d'épicerie.
Ouais, c'est mais ça, ça marche pas, ça.
Moi, c'est mon conseil que je fais à tout le monde quand j'étais conseiller politique. Je disais, faut que tu aies quelque chose qui marque l'imaginaire. Tu sais, je veux dire, si nous, on n'est pas capable d'en parler pendant 5 minutes, puis que la personne qui écoute dans l'auto comprend de quoi on parle, parce qu'on est trop occupé à expliquer que oui, mais là, c'est la taxe sur telle affaire qui va changer, tu perds les gens.
T'as tellement raison.
L'électeur moyen, il donne 10 secondes par jour à la politique, genre.
Ouais.
Fait qu'il faut que tu sois capable de saisir. Puis tu sais, là-dessus, moi, je pense que ça va être des baisses d'impôts, là, ou des baisses de la taxe. Puis là-dessus, tu sais, M. Duhaime, il a raison de continuer à taper sa taxe carbone. Parce
en
que
effet.
Moi, en tout cas, depuis que j'ai une voiture, là, à chaque fois que je fais le plein, la taxe carbone, je l'ai où tu penses, puis je me dis, ouh là là, c'est
127 loin, quand même, hein. Mon minivan hier. Hey, 127 piastres.
Puis le gaz vient de baisser. Le gaz vient de baisser, puis ça t'a coûté 127
piastres. Ah, exactement. J'étais comme...
Alors, la semaine passée, quand j'ai fait le plein, je l'ai pogné à 1,99. Là, à Ottawa, c'est moins pire parce qu'il n'y a pas la taxe.
C'est vrai.
J'ai pogné à 1,72. Hey. Là, j'arrive à Québec ici, ah, 1,86.
Ben, c'est ça. Mais encore là, tu sais, puis... Je comprends toutes ces taxes à l'essence, mais ce qui me fâche, c'est que ça finit toujours, on dirait, par être les essenceries qui s'en mettent dans les poches, parce que, crème, ils l'ont baissé de 10 cents au Canada, puis on voit pas le ressac à l'heure actuelle.
Mais cela dit, la différence